Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qui nous emmène aux États-Unis depuis lundi. Le politiquement correct aux États-Unis, il est surtout pratiqué sur les campus. Le critiquer, c'est une spécialité de la droite américaine. Donald Trump lui-même s'est servi de certaines dérives pour critiquer les politiques qui lui déplaisaient.
Oui, better than bigotry, disait-il. Et oui, Rand Richard Cooper, dont je parlais hier, dans l'article consacré au guide du langage commun, édité à destination des étudiants par le Bureau de la diversité et de l'inclusion de son ancien collège, Amherst, écrit: par moments, j'ai l'impression de lire une parodie. Vous savez, une de ces parodies qu'écrivent les essayistes conservateurs pour se moquer du politiquement correct. Et à travers lui, des valeurs de la gauche progressiste américaine. Les progressistes dans son genre, à Cooper, déplorent de devoir ainsi mêler leurs critiques à celles des conservateurs. Ils voudraient défendre les valeurs universalistes et rationalistes de l'ancienne gauche, comme par exemple l'égalité entre les individus, quelle que soit leur ethnicité ou leur couleur de peau. Mais il se heurte à une nouvelle gauche identitariste aussi obsédée par la race que les suprématistes blancs d'extrême droite. Prenez la définition donnée par le guide du langage de Amherst pour l'expression « colorblindness ». Dans le langage de l'ancienne gauche, cela désignait le fait de refuser toute discrimination raciale, l'indifférence aux questions de couleur de peau, bref, l'antiracisme. Mais dans la novlangue universitaire contemporaine, voici la définition donnée de colorblindness. Idéologie qui croit que la meilleure façon de venir à bout de la discrimination raciale passe par le fait de traiter pareillement tous les individus sans tenir compte de leur race, culture ou ethnicité. Cette croyance ignore cependant les facteurs historiques et structurels qui bénéficient aux blancs et désavantagent les peuples indigènes, les noirs et les autres personnes de couleur. Comme l'écrit chez nous Jean-Lou Hamsel, l'idée n'est plus seulement que le racisme est une mauvaise chose, mais que la race est une bonne chose. Beaucoup d'enseignants, d'après Ron Richards Cooper, désapprouvent les initiatives de ces « diversity officers », mais ils n'osent pas s'y opposer ouvertement, de peur d'être ostracisés. Le plus triste, conclut l'auteur, c'est de constater que la double offensive de la nouvelle droite et celle de la nouvelle gauche sont en train de converger pour entraîner les États-Unis dans la voie d'un illibéralisme radical. Trump à la Maison-Blanche, c'est l'incarnation de l'illibéralisme politique. Les universités, elles, se convertissent, jeu de mots, aux illiberal liberal arts, disons aux humanités non libérales.
Et Brice, ces guides du lexique correct, menacent-ils la liberté d'expression, doublement garantie, en tout cas en théorie sur les campus américains, en vertu d'abord du premier amendement qui interdit la censure, mais aussi des libertés universitaires?
Réponse de Pamela Paresky, une responsable de la Foundation for Individual Rights in Education. Beaucoup d'étudiants usent d'un double standard dans ce domaine. En théorie, ils défendent la liberté d'expression à plus de 90% selon les sondages, mais ils sont deux tiers à juger qu'il faut empêcher les actes de langage inintentionnellement offensifs envers certains groupes. Bref, il faut interdire le hate speech, les discours haineux. Alors s'il s'agissait du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, on ne pourrait que les approuver, bien entendu. Mais malgré les guides de langage, plutôt à cause d'eux, le sens des mots mériterait des examens de vérification. Car la notion de hate speech est à présent étendue à toute opinion qui déplaît à une minorité quelconque qui contredit sa doxa. Ainsi, de plus en plus d'étudiants justifient le boycott, parfois accompagné de violences physiques, envers les personnalités dont les opinions leur déplaisent. Ils qualifient les propos tenus par ces mêmes personnalités comme offensifs et violents, mais on ne saurait utiliser le même qualificatif « violent » pour désigner un propos qui déplaît et un coup de poing sur la figure censé lui répondre. C'est un abus de langage. Le droit d'expression est un principe fondamental aux États-Unis et les universités devraient s'en souvenir. Joshua Clover, un spécialiste de poésie française qui enseigne à l'université Davis de Californie, a tweeté des propos extrêmement agressifs envers les forces de police. Je cite: « Je me félicite que tout flic vivant finisse par mourir, les uns de leurs propres mains, d'autres tués par leurs confrères et d'autres trop nombreux du fait du grand âge. » Et encore, du même, il y a des gens qui pensent que les flics devraient être réformés. Non, ils doivent être tués. Alors une pétition réunissant 10 000 signatures a demandé son exclusion de l'université. Mais Pamela Paresky rappelle le droit américain en ce domaine. Dans son arrêt de 1969, Brandenburg versus Ohio, la Cour suprême a décidé qu'un État n'a pas le droit d'interdire à un particulier d'appeler à faire usage de la force et même à violer une loi, sauf si cet appel a des chances réelles de déboucher sur des actions violentes. Selon le droit des États-Unis, le professeur Joshua Clover a donc le droit de souhaiter la mort au policier tant qu'il s'abstient d'en tuer un lui-même.